Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Guy Pilarczyk pour l'actu du tout-terrain. Bonjour Guy.
Bonjour Amiche, bonjour tout le monde.
Alors émission chargée, nous allons avoir au téléphone d'ici une demi-heure, Maxence Rigaud qui s'est malheureusement blessé sur le terrain de Loomplage à l'entraînement.
Voilà, il sera en direct au téléphone. Oui. Dimanche dernier, il a passé une vidéo qu'on avait vue à la remise des prix des Flandres.
Tout à fait, oui.
Nous allons avoir aussi Milko Petitsek aussi qui alors lui s'est malheureusement blessé au Supercross de Lille. On a vu des photos de sa réparation, de la jambe. C'est impressionnant quand même.
Mais enfin, il est toujours sur pied parce qu'on l'a vu la semaine ouais. dernière à la remise des prix.
Alors on pourra parler avec lui. On voit sur les sites, sur les réseaux sociaux que éventuellement il pourrait être présent à l'enduro. Ah ben, non, tu crois pas
En lui posant la question.
D'accord, voilà. Notre invité, eh bien, c'est Patrick Pantini.
Bonjour.
Voilà, bonjour Patrick. Guy, je te présente Patrick, vous connaissez.
Oui, bonjour Patrick.
Bonjour Guy.
Voilà, on va parler donc du calendrier 2015 de la Ligue.
Oui.
Avec une incidence avec les régions, la Picardie et la Flandre.
Bon, on en causera peut-être tout à l'heure, mais non, il n'y aura pas trop d'incidence, à mon avis.
Très bien. Et puis, on commencera cette émission justement avec la première édition du Supercross Paris-Lille, qui a eu lieu il y a trois semaines.
Trois semaines, oui.
Avec un interview du concepteur de la piste. C'est Jean-Luc Fouché.
Jean-Luc Fouché, en effet, oui.
Bon, avec un micro-interview, il nous raconte que finalement, c'est impressionnant parce qu'ils ont dû ramener 5800 tonnes de terre ici, de la région, pour concevoir cette piste.
Et rappelle-toi, la Miche, on a failli se faire tuer.
C'est vrai, on a eu on a presque failli avoir un accident.
À cause d'une fuite de la toiture.
Oui, parce que ça fuit, en fait. Voilà, et c'était malheureusement juste sur le sommet de la butte.
Alors, tu vois, pas de chauffage maintenant.
Et à l'entraînement, un des pilotes a malheureusement dérapé à l'endroit juste où il y avait de l'eau, justement. Et voilà. Donc, Calimera Yanis.
Calimera.
Voilà, on va parler un petit peu, on va revenir un petit peu. C'est l'époque des hivernales. Dimanche dernier, nous avons eu Jean-Yves Ballois, qui était à l'Authentique.
Qui était à l'Authentique.
Il faut expliquer, l'Authentique, c'est l'hivernale du motoclub des Mille Vaches.
Du motoclub des Mille Vaches, qui a été créé il y a deux ou trois ans.
On a bien senti qu'au téléphone, il y avait une espèce de stress. On sentait bien qu'il était un petit peu en panade là-bas,
en Auvergne. On en a rajouté un petit peu en lui faisant croire qu'il neigeait sur l'île.
Oui, et il a eu peur aussi. Voilà. Et donc, Jean-Yves, on va l'avoir d'ici en troisième demi-heure. On va vous faire un petit debriefing de comment ça s'est passé et puis finalement, l'ambiance, comment est l'ambiance là-bas à l'Authentique. Voilà. Les infos club, c'est avec Christine. Bonjour Christine.
Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous rappellerai un petit peu sur le circuit de Lezenne.
On va rappeler à chaque fois maintenant, il va falloir remplir le don, le formulaire pour les dons.
Oui, et t'oublies le calendrier des courses sur glace.
Et puis le calendrier, bien sûr, les courses sur glace.
Parce qu'il gèle aujourd'hui.
Eh bien oui, là aujourd'hui c'est impeccable. Oui, effectivement. On va en parler, Guy, on va en parler. Mais aussi la musique, le programme musical est signé Laurent Rodier.
Truck just outside San Antonio.
cette enceinte. LA lights, it can make you blind. And hard times hanging like a Hollywood sign. Rattlesnake drinks and I try pneumonia. Cause I moved from Texas to California.
Magazine de la moto, c'est tous les dimanches sur Campus Lille, 106,6. Allez, on parle, on revient un petit peu, on fait un debriefing, hein, un petit peu, un petit coup d'œil dans le rétro sur le premier Supercross Paris-Lille, hein, qui a eu lieu 3 semaines ici dans la région.
Ouais, oui, déménagement
au stade Pierre-Mauroy.
Déménagement de Bercy à Pierre-Mauroy. Et en effet, par rapport à Bercy, quand même 10 000 personnes de plus qu'à Bercy. Et l'année prochaine, Lille sera toujours candidat pour la deuxième édition. Donc voilà, on a vu les pilotes américains, bon, quand même, au-dessus des pilotes français, n'est-ce pas, la Miche, toi qui étais aussi.
Oui, mais je suis pas trop connaisseur, si tu veux, motocross, enfin, surtout en plus en supercross.
Parce que bon.
C'est toi qui m'as expliqué un petit peu les règles. Et...
Oui, parce qu'il y a certaines règles que je vais revenir. Par exemple, parce que les pilotes américains. Roule presque tous les dimanches sur des pistes indoor. Hein, donc, tu as pu voir les Français un peu pas la ramasse, mais difficile. Potisek qui avait parti bien en tête, ouais. Mais bon, vite rattrapé par Eli Tomac, Barcia et Stewart et d'autres. Hein. Donc, ce qui s'est passé aussi, parce que j'ai eu quelques remontées, De spectateurs qui pouvaient pas rentrer avec des télé objectifs.
Oui, alors moi aussi j'ai eu des mails de gens qui m'ont de motards et de spectateurs qui m'ont dit effectivement ils étaient pas très contents hein, vu le prix quand même de la place.
Oui, c'était quand même les places les plus chères, à peu près 90 euros, ouais. Hein, 85 euros et impossible de circuler pour faire des photos. Hein, bon, sauf bon, enfin nous on était. Spécialement dans notre truc presse, mais bien qu'il fallait un blouson, enfin une veste spéciale pour pouvoir faire des photos, etc., sur le circuit. Juste à côté, hein, tu te rappelles, il y avait le tennis aussi, parce que je ne comprenais pas très bien pourquoi la piste, elle était à Bercy, elle était beaucoup plus grande, et pourquoi, enfin, c'est-à-dire, elle était quand même compacte et tout le monde pouvait la voir, quoi. Sinon, si on pouvait faire tout le stade, c'était encore mieux. Et puis aussi, il y a eu un petit problème à un moment donné, c'est que toutes les portes se sont fermées. Pendant un moment, on pouvait ni rentrer ni sortir. Et ça, c'était à cause de l'inspection du travail qui était venue faire un contrôle des placiers, etc. Et ça s'est reproduit aussi en tennis. Hein. Bon, ça, c'était leur boulot. Et puis, bon, enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Concernant par exemple le circuit en lui-même. Bon, pour créer un circuit comme ça, il faut quand même être spécialiste parce que
c'est quand même impressionnant. Hein. Hein,
tu ramènes pas de la terre de betterave à une brouette et puis
non, c'est pas possible.
Et à Garato.
Il y aura dans le mini interview de Jean-Luc Fouquet là qui prépare. Apparemment, ce gars-là, c'est un spécialiste hein, de ces événements.
Ouais. Ouais, parce que Jean-Luc Fouquet, il était quand même pilote professionnel.
C'est Fouché, hein, moi je dis Fouquet, Fouché.
Fouché ouais.
Avec la police.
Il était pilote professionnel de motocross, il a été champion de France en 84, en 125, donc il connaît le motocross par cœur. Bon, ça fait quand même 20 ans qu'il s'occupe de ça. Hein. Il a créé par exemple Bercy, c'est lui, tous les cross indoor, le championnat de France indoor qui se déroule dans plusieurs villes
en France.
C'est lui. Et je crois qu'il a même, pas pris des cours. Mais il était plusieurs fois aux USA pour voir un peu comment la structure, enfin comment eux ils marchent. Donc on a eu l'occasion d'en parler avec lui, hein, surtout à un moment donné que On parlait de la fuite. Il y avait une fuite, justement.
Effectivement. Le toit du stade était donc fermé, forcément. Et puis, malheureusement, il y avait une fuite juste en haut de la butte, hein, en fait, la grosse butte. Hein. C'était imposé un problème parce que les pilotes étaient arrivés justement dessus.
Quand ils retombaient.
Quand ils retombaient. Donc, au freinage, c'était embêtant, quoi.
Ouais. Donc, ce motocrossman a fauché une photographe et puis...
Bon, il y a eu un petit incident.
Voilà. Et nous, à quelques centimètres près, si on n'avait pas fait attention.
Alors, effectivement, si on revient un petit peu sur la piste, nos pilotes, nous, Français, une piste de supercross, c'est pas du plat, c'est pas du sable, ça n'a rien à voir. Il faut avoir une technique un peu particulière.
Bah, surtout avec les whoops, etc. Ouais. Bon, c'est très spécial comme conduite. Hein, Potisac a fait malheureusement... Il y a vu que c'est quand même un peu spécial, c'est pas des courses dehors.
Donc ça se passe en deux manches, hein ?
Le Supercross, en plusieurs manches, parce qu'il y a des courses à l'américaine, par exemple.
Il faut expliquer, c'est un peu le fonctionnement de la course à l'américaine.
La course à l'américaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun part individuel et il doit mettre son chrono, le meilleur chrono possible. Mais ça, c'est pour le public, hein, parce que sinon, ça n'a pas de règles particulières.
Parce que le Supercross, c'est aussi un peu du fun, hein, c'est de l'ambiance, la musique, le speaker qui met, qui monte qui fait monter
Et les pompes en girl. Hein,
les pompes en girl, alors voilà c'est tout ça aussi le Supercross, hein, faut expliquer ça quand même.
C'est ça, et puis le sandwich à 10 euros, enfin aussi.
Oui, ça c'est aussi le sandwich à 10 euros, je reconnais que c'est pas pour rien quand même.
Alors on va peut-être écouter Jean-Luc.
Ça dure pas très longtemps, mais on a eu un petit problème technique, mais ça va quand même donner une idée de la piste.
C'est bon ? C'est bon. Alors ici, on est au stade Pierre Mauroy de Lille. Et nous sommes avec Jean-Luc Fouché, le créateur de cette piste. Jean-Luc, comment s'est passée la construction de cette piste du Supercross ?
Reprise des essais dans quelques instants, merci.
Très bien, très bien. Pas de soucis particuliers, bien sûr, des normes techniques à régler, mais qu'on a déjà réglées depuis le mois de juillet, hein, concernant la protection de la pelouse. Pour en revenir à la piste proprement dit, on a rentré environ 260 camions de terre, ce qui représente à peu près 5800 tonnes, pardon, qui correspond à 3000 mètres cubes. Une bonne terre, une terre qui a une belle couleur déjà, agréable, une terre du Nord. Ah oui, une terre locale, hein. Oui, on l'a pas amené de chez nous, hein, ça c'est clair.
Il y avait des betteraves avant.
Oui, comme on dit, terre à patate, c'est ça, non ? Voilà, terre à patate, oui. Non, une terre qui a une bonne tenue, bon, qui va nécessiter de l'entretien, hein, comme d'habitude. Hein. Vu le niveau de pilote qu'il y a, il est bien clair qu'il faudra surveiller la piste de près. Mais on est ravis, pour l'instant, les essais s'est très bien passé. Les pilotes ont l'air ravis. Donc.
spécial tout terrain aujourd'hui dans le magazine de la moto avec Guy Pilarczyk. On va retrouver, on va faire c'était au Supercross aussi de Lille il y a 3 semaines, hein, on a rencontré Jordi Tixier,
oui, qui est champion du monde de MX2 de cette année. Bon, c'est quand même un pilote qui a quand même pas mal de bagages. Il a été champion de France de mini-vert en 2003, c'est-à-dire il y a quand même 11 ans. Hein. Il a été champion en 2010, triple champion, champion du monde junior, champion d'Europe 125 et champion de France junior. Donc il faut déjà le faire. Hein. Et sa progression en MX2, en 2011, il était 13e, 2012, 5e, en 2013, 4e et champion du monde cette année, avec 4 points d'avance sur le Hollandais Jeffrey Herling. Mais Jeffrey Herling, il était quand même blessé, il a raté deux épreuves, parce que bon, Herling est quand même un poil plus fort. Il roulait sur KTM, maintenant il roule sur Kawasaki, donc on a la chance alors, de faire un
petit... Et pilote aussi, là, s'essaye aussi au Supercross, parce que le Cross et le Supercross, c'est...
Bah, il fait ça, c'est-à-dire
pas
un peu...
pas discipline qui se ressemble quand même.
Donc ils se ressemblent, mais bon, vu que c'est Bercy, c'est connu, Lille... Bon, il fait ça une ou deux fois, quoi, mais c'est pas...
Est-ce que les primes d'engagement sont intéressantes, peut-être ?
Ah, ben aussi, ouais, parce que, bon, par exemple, les Américains, ils viennent pas gratuits, hein, parce que c'est tout un staff. Donc, on a eu l'occasion de le rencontrer, et on va l'avoir au téléphone.
Alors, nous sommes ici, toujours au Supercross de Lille, et nous sommes en face de qui ? D'un illustre champion du monde, Jordi Tixier. Champion du monde en MX2. Alors, retomber sur du nuage avec un titre de champion du monde,
On va dire que c'est assez difficile à y croire. C'est vrai que c'était un rêve de gosse, quoi, depuis que je suis tout petit, d'être un jour champion du monde. Avant, j'étais comme tous les fans qu'il y a maintenant. La vache, par exemple, comme des Christophe Courcelles quand ils étaient champions du monde, des Antonio Caroli, tout ça. Et maintenant, c'est moi qui ai leur place. Donc, c'est vrai que... c'est vraiment très très difficile à y croire, à imaginer, mais voilà, petit à petit ça vient de plus en plus. Quand on voit la presse qu'il y a, la télé et tout ça, on s'imagine qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé. Donc voilà, vraiment un beau championnat du monde pour moi, et avec ce titre, donc que du bonus, c'est vraiment génial.
Et à la dernière épreuve au Mexique, c'était tendu, comment est-ce que tu espérais d'avoir ce titre ou pas, parce que d'un côté... Le pilote hollandais Jeffrey Herling pouvait encore ravir le titre, mais étant blessé. Mais sinon, tu avais la chance d'avoir la couronne.
Oui, bien sûr, c'était possible. Après, une course, on fait quand même du sport mécanique. Donc on sait que beaucoup de choses peuvent arriver, la chute, les problèmes mécaniques, tout ça. Donc voilà, j'avais appris quelques jours auparavant la grosse blessure de mon petit frère. Du coup, ça m'a vraiment motivé pour ce Grand Prix. Et à la base, je voulais d'abord gagner ce Grand Prix avant d'être pouvoir espérer être titré. Donc voilà, dans ma tête, c'était pas qu'il fallait que j'accroche le titre mondial, c'était surtout gagner le Grand Prix pour mon petit frère. Et voilà, tout le week-end c'était super bien passé, j'ai gagné presque tout, manche qualif, chrono. Au chrono le matin, j'ai refait la pole, première manche je gagne, et deuxième manche je pars en tête. Et je suis dans le premier tour. Du coup, au parti 14, revenir à la troisième place pour accrocher le titre mondial et gagner le Grand Prix, c'est vraiment une journée exceptionnelle, extraordinaire. Je veux dire, il y avait une telle pression avant le départ. C'est vrai que j'avais jamais vécu ça auparavant, pouvoir être un jour titré. Et voilà, je me suis dit, de toute façon, relâche-toi, donne tout ce que tu as. Il faut pas avoir de regrets dans la vie. Donc voilà, j'ai juste tout donné et ça a marché. Donc voilà, juste des moments extraordinaires.
En début de saison, Jeffrey Herling avait dit qu'il voulait gagner toutes les manches. C'est pas un peu prétentieux quand même, non, à ton avis ?
Si, bien sûr, mais voilà, Jeffrey, il sait qu'il est vraiment rapide. On a pu voir avant sa blessure qu'il avait presque tout gagné. C'est vrai qu'il était vraiment au-dessus de nous, je pense, niveau en manche, parce qu'après en chrono, on n'était pas spécialement très très loin, mais après en manche, lui, il tient un rythme vraiment comme au chrono pendant une durée de 40 minutes, donc c'est ça qui fait qu'il gagne souvent. Et il est aussi très très rapide, donc c'est sûr que c'est un petit peu, je dirais pas prétentieux, c'est juste que voilà, il fait un peu peur aux adversaires et jusqu'à maintenant ça a marché avec lui, donc voilà.
Tu pilotais, tu as eu ton titre avec KTM, tu étais quoi, officiel, semi-officiel avec KTM?
Moi, J'étais avec donc Jeff Harlings, donc c'était mon coéquipier, et donc j'étais dans l'équipe KTM Factory, Red Bull. Donc voilà, c'était vraiment le team usine, c'est là que beaucoup de pilotes aimeraient aller, et voilà.
Et c'est toi qui es parti ou c'est KTM, enfin KTM ne t'a pas remercié quand même?
Ils m'ont dit ça avant la fin du championnat, vers le Grand Prix de Belgique. Ils m'ont dit que voilà, ils voulaient pas me garder pour l'année prochaine, qu'ils préféraient prendre des jeunes. Du coup, j'étais vraiment déçu de leur décision parce que j'étais quand même actuellement deuxième du championnat. Jeffrey venait de se blesser. J'avais gagné mon premier Grand Prix la semaine juste avant. Donc voilà, même avec la blessure de Jeffrey, j'étais quand même sur la plus haute marge du podium. Donc j'ai pas trop compris leur décision. C'est vrai que j'étais vraiment déçu. Après, voilà, il y a Kawasaki qui m'ont proposé vraiment un bon deal et qui étaient vraiment motivés pour m'avoir dans le team. Donc voilà, j'ai pas hésité à signer avec eux. Et voilà, maintenant, j'ai vu comment ça se passait et je suis vraiment super content de la façon dont ça se passe.
Et au niveau moto, par exemple, la comparaison entre KTM et Kawasaki, Kawasaki par rapport à KTM, elle est plus puissante, plus légère
On va dire que la puissance... C'est différent parce que quand je roulais avec KTM, j'avais une 3,5, là j'ai une 4,5, j'ai pas encore essayé les 2,5 donc je sais pas. Mais ensuite, le truc qui m'a le plus choqué, c'est qu'avec la Kawa, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus maniable. Donc voilà, je me fais vraiment plaisir et je suis content d'être avec eux.
Et en 2015, tu repars dans quelle catégorie?
Encore une année en MX2, donc on va essayer de.
Garder ton titre.
Voilà, on va essayer. Après, voilà, pas de pression, toujours être régulier, comme je sais le faire normalement, donner le meilleur de soi-même. Et puis voilà, l'objectif, ça sera bien sûr d'essayer de garder le titre mondial. Ça sera vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adversaires qui sont capables de gagner. Mais voilà, on va tout faire pour et puis voilà, se faire plaisir comme d'habitude.
Un petit mot alors sur le Supercross de Lille. Qu'en penses-tu de la piste, de l'ambiance, etc.?
C'est pas mal. Je veux dire, on avait l'habitude d'aller à Bercy, donc Bercy était plus petit. Donc je sais pas ce qui fait ça, mais j'ai l'impression que le public à Bercy était quand même un peu plus chaud, tu vois. Un peu plus, toujours en train de crier et tout ça. Là, c'est pas mal pour une première, je pense. Ils ont quelque chose un peu amélioré sur la piste, la terre qui est vachement molle. Donc ça, c'est dangereux. C'est vrai qu'il n'y a jamais aussi eu autant de chutes dans les supercross auparavant. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chutes, donc faut faire assez attention. Mais sinon, d'un point de vue global, c'est assez bien et je pense que les pilotes sont assez contents.
Ok, ben on te souhaite une excellente saison 2015 et te voir encore couronné l'année prochaine.
Ça fait mal d'être humilié, balancé comme une vieille chaussette. Mal d'être oublié, méprisé, traité comme de la merde. Ça fait mal. Diablo nous emporte. Ça fait mal.
Casino de la moto, c'est tous les dimanches sur Campus 106,6, direction le calendrier 2015. Calendrier de la Ligue des Flandres, Guy.
Oui, qui est sorti la semaine dernière, il y a une semaine exactement, oui. Patrick.
Oui.
Et je crois qu'il y a eu un peu plus d'épreuves par rapport à l'année dernière, hein, je crois.
Oui, oui, il y a un peu plus d'épreuves, avec un terrain tout à fait nouveau qui clôturera la saison. C'est à Sangatte. Hein. C'est la première fois qu'une manche du championnat des Flandres est organisée là-bas, quoi. Hein. Donc, ça démarre par le sable à Lonne Plage. C'est le motoclub capellois qui met en place ça le 21 mars. Hein. Suivi de Gouy le 29 mars. Gouy, qui est quand même un terrain très intéressant aussi. Hein. Là, on revient sur la terre.
Je te coupe que l'année, c'est pas l'année passée, c'est, non, cette année. L'épreuve a été annulée à cause des pluies, non
c'est... Non, non, Gouy, c'est à Croisille.
À Croisille,
oui, oui. À Croisille, là, ils n'ont pas eu de chance. C'est justement le troisième cross. Là, c'est le 5 avril à Croisille. L'année dernière, ils ont été obligés d'annuler pour des raisons, un temps pas possible. Deux fois de suite. Hein.
Deux fois de suite.
C'est une catastrophe pour un club. Quand je veux dire, voilà quoi. Et c'était pas possible. Sous la pluie, ça peut encore aller, mais il y avait de l'orage et la foudre. Les règlements sont clairs.
On ne roule pas pour le club. C'est le club qui paye les pilotes, les primes de départ.
Primes de départ, il n'y en a pas hein, en championnat des Flandres. Mais bon, il y a des frais annexes. Hein, c'est quand même énorme. Bon, là, il y a un arrangement entre la Ligue. Hein, la Ligue, elle a pris une partie. Parce que le club, de deux échecs comme ça, on ne se remet pas. Quoi, hein, c'est clair. Quoi. Donc voilà pour Fontaine-les-Croisilles. Est-ce que je parle un peu des épreuves de vitesse également?
Oui, parce que
c'est dans le calendrier.
C'est ce qu'on regarde dans le calendrier, c'est que les trois quarts, c'est du motocross. Il y a très peu de...
Très peu.
D'épreuves sur piste.
Le 26 avril, c'est à Croix-en-Ternois, les motos anciennes.
C'est le VMA.
Voilà. Suivi d'après... Là, on revient au mois de mai. Mais peut-être, il n'y a encore rien de sûr... Au mois d'avril, il y aurait une manche du championnat de France de quad à Gouy. C'est en pourparler, ça se précise. Donc Gouy organiserait son championnat de France de quad.
D'accord.
Le terrain, il est assez large, il est bien pour accepter une compétition comme ça. Quoi.
Mais tous les ans, ils font des courses de quad là, sur ce terrain, non ?
À Gouy, non, pas forcément. Là, il y a deux ans, il y a eu le championnat de France qui avait été emporté par Varnia. Hein, voilà, quoi. Et comme Varnia est membre du motoclub de Gouy, donc il est un petit peu dans son jardin. Quoi.
Ouais,
voilà. Et au mois de mai, donc le 1er mai, c'est Avennes-sur-Helpe, hein, motocross des Flandres, suivi de Merville, qui est un terrain aussi intéressant, le 17 mai. Et là, on passe à Cassel, hein, trophée...
Alors, est-ce que c'est un beau circuit, Cassel ? Est-ce qu'il y a de l'ambiance ?
Oui. Oui, pour les spectateurs, c'est un excellent...
Si on doit faire un choix sur le calendrier, éventuellement, on va pas non plus faire un classement, mais...
Il y a des terrains qui sont plus techniques que d'autres. Je prends l'exemple de Le Quesnoy, c'est étroit, c'est presque la mono-trajectoire. Surtout quand il pleut. Alors là, je veux dire, on peut... Celui qui part en tête, il a toutes les chances de garder la tête s'il ne tombe pas et d'emporter la manche.
Et pour les spectateurs, parce que voir la totalité du circuit, ça c'est intéressant aussi.
Hein, voilà. Cassel, c'est un terrain qui est magnifique pour ça. C'est qu'on voit le départ et on voit tout le circuit. Donc,
comme l'ancien circuit de Cassel.
Oui, qui était sur l'autre versant.
Sur l'autre versant, bon...
On voyait tout.
Ouais, on voyait tout aussi. Et théâtre de 2-3 championnats du monde, d'ailleurs.
Par contre, l'inconvénient à Cassel, c'est que pour les officiels, on ne voit pas le terrain, la cabine est mal placée. Enfin, ça va changer un petit peu parce qu'on ne découvre pas tout le terrain. Ce qui est très gênant quand il y a un accident... S'il faut mettre un drapeau rouge, s'il faut stopper, c'est gênant pour ça.
Donc on mettra un petit plus là pour casser l'heure.
pour l'épreuve, c'est important parce que c'est beaucoup de pilotes, il y a les gros bras français qui déboulent, voire aussi des Belges. Donc il y a quand même il y a du beau monde.
Voilà. Sauf que Cassel aussi a un problème de parking.
Oui.
Aussi, gens s'arrêtent sur la bordure, sur la nationale, quoi. C'est assez spécial.
Oui, oui, oui.
Et je reviens sur Cassel, il ne faut pas oublier que c'est le lundi de Pentecôte, où la moitié des gens travaillent, il y en a qui ne travaillent pas.
Mais il y a toujours du monde à Cassel.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Toujours du monde. Comme le Quénois d'ailleurs. Petit terrain, mais alors un monde fou. C'est le 14 juillet.
Donc c'est un président de motoclub de Cassel qui est heureux alors à chaque fois.
Oui, je pense.
Qui est sûr de rentrer dans ses frais.
Ouais.
Enfin, qui avait un peu gonflé aussi le nombre de public. Faire attention à ça aussi.
On le voit de toute façon. Il est évident que Cassel, il y a du monde. Le Quénois, il y a du monde par rapport à d'autres circuits où il n'y a pas beaucoup moins de monde. Voilà, on passera à la deuxième partie du calendrier après.
Go.
Un spécial tout terrain aujourd'hui sur le, dans le magazine de la moto. On continue sur ce calendrier, un calendrier provisoire quand même, hein, Patrick.
Oui, oui, oui.
Des épreuves donc de la Ligue des Flandres.
C'est ça. Donc il vaut mieux passer parfois un petit coup de fil si on vient de loin à l'organisation, demander si ça a bien lieu. Hein, surtout s'il fait mauvais. S'il fait du mauvais temps, y a beaucoup plus de chances que ça soit annulé. Quoi, hein, voilà. Donc on passe après, on revient à la vitesse et la Coupe de France Promo Sport. Ça, c'est une organisation FFM hein, qui a lieu à Grand-Ternois, c'est le 31 mai. Pour revenir après sur le tout-terrain et en motocross, c'est le 31, et bien également le 31 mai, sur le circuit de Lequesnois. C'est le motoclub d'Aven qui organise son motocross. Ils font fort cette année, il y a beaucoup de compétitions organisées par le club d'Aven.
Ils ne font pas un nocturne, Lequesnois, non ?
Il y a un nocturne, mais qui aura lieu normalement à Étrain. Hein, ah, c'est d'accord. À côté de côté.
Ah ouais.
Ouais, c'est pas toujours évident le nocturne au niveau sécurité. Bon, et puis ça coûte. Hein, voilà. On revient toujours le motoclub avenois d'Aven qui organise le 14 juin une endurance à Laroui, ça doit être un village quelque part dans l'Avenois, il me semble. Hein, bon. Toujours en motocross, c'est le motoclub de Catillon qui organise son motocross à Catillon-sur-Sambre, le 21. Le 28 juin, c'est le motoclub avenois encore, championnat de France mini-vert et moto ancienne. Alors le mini-vert, c'est pas sûr parce qu'il va y avoir également des changements sur le plan fédéral. La disparition des mini-verts, remplacée par, on ne sait pas bien, mais enfin c'est en pourparler quoi. Donc, est-ce qu'il aura lieu ou pas ? Là aussi, incertitude.
Donc, si elle a lieu, cette course, ça sera des pilotes de 7 ans à 77 ans.
Parce que mais oui,
les premiers pilotes qui vont...
Ouais. Donc, jeunes, on va pouvoir envoyer les anciens. La Miche, hein, ouais. Puisque...
Oui, bien sûr.
Fait l'enduropal en vintage.
Ben oui, voilà. Je m'entraîne. Hein.
Alors, on reparle un peu dans le Pas-de-Calais, enfin, on va dire à la porte du Pas-de-Calais, le MC de l'Artois... qui organise son deuxième cross à Fontaine-les-Croisilles, en espérant que cette année, il y ait un peu plus de beau temps. On repart dans l'Avenois pour le 14 juillet. Alors là, le 14 juillet, le Quesnois, c'est le terrain mythique. Il y a toujours un monde fou.
C'est, ah bah voilà,
c'est,
donc
c'est dingue, même s'il fait mauvais.
Ex aequo avec Cassel.
Voilà. Oui.
Et surtout que c'est pas loin du bar, du Loubar. Hein.
En plus, il n'y a pas trop loin. Ouais, ouais, voilà. Ouais, exact. Là, on revient sur Val de la Sensée, le motoclub d'Arleux, qui organise son cross annuel. Ça se déroulera le 2 août, en espérant qu'il y ait du monde, parce que c'est une date qui n'est pas terrible.
Ah, 2 août, oui.
C'est les vacances, et il y a tout ça, quoi. Le MC Condé prendra le motoclub Condé.
Là, c'est le problème. Là.
Oui, prendra le relais pour le 13, pour un motocross également des Flandres, hein, championnat des Flandres. C'était sous réserve, mais c'est quasiment à qui c'est fait.
Il me l'a confirmé, ouais, hier.
Ben, voilà, ouais, tu vois. Et là, on repart un peu dans la nuit, puisqu'il y a un nocturne de programmé à Étrain. Hein, Étrain, le 19. septembre, Étrain étant pas trop loin de Lequesnois.
Et c'est le pays de...
C'est le pays de... Attends, bon, j'ai oublié son nom d'un pilote très, très connu.
Yves Dedon.
Yves Dedon, voilà. Ouais, hein, qui avait fini premier.
Oui, alors là...
premier,
l'affaire Dedon.
Ouais, et déclassé.
À cause d'un silencieux.
On revient à la vitesse à Grand-Ternois le 29 septembre, le Pro Classique. Que tu connais bien, la Miche.
Oui, bah oui. Voilà.
Et on terminera la clôture du championnat des Flandres à Sangatte, qui est un nouveau circuit.
Et voilà. Ça, c'est le calendrier des épreuves. Bon, c'est encore un provisoire, mais en gros, on peut dire que.
Oh, bah,
on va pouvoir s'y tenir quand même.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc l'année prochaine, là, il va y avoir un recoupage des régions. Donc pas l'année prochaine, pas en 2015, mais en 2016 peut-être.
Ouais. Alors,
il va y avoir la Picardie qui.
Oui, il y a la Picardie. Alors ça, bon, maintenant, faut voir si tout ça va se mettre en place hein, politiquement. Bon, ça bouge, ça remue un petit peu dans tous les sens. Alors au niveau de la Ligue. Les renseignements que j'ai, la FFM dit que ça, rien ne changera, rien ne bougera. On restera toujours. Voilà. Alors, Après, je veux dire, sur les crosses, c'est autre chose, parce que quand on a 400 pilotes plus la Picardie, si elle rejoint, ce sera ingérable. Ingérable au niveau pilote. C'est pas possible.
Au niveau des licences
Non, pas licences, sécurité sur
sécurité
un circuit.
Sécurité sur un circuit, oui.
Une grille, c'est 40 pilotes.
Ah oui, on va devoir, plus, faire, on va devoir 5, agrandir les pistes de terrain. Alors.
45 ouais. Pilotes maximum. Il va falloir combien de manches, tout ça. Enfin, bon, même s'il y a des qualifs.
Les qualifs et tout ça, hein.
C'est,
pour
c'est,
pouvoir écrémer un peu les.
Écrémer, oh, j'aime pas ce terme-là. On n'écrème pas. Non, non, mais c'est
les voilà. Meilleurs. Enfin, les.
Ça sera difficilement gérable. Là, maintenant,
bon
attendons.
Un petit mot quand même sur la Picardie, parce que le département de la Somme, auparavant, faisait partie de la Flandre. Hein. Ouais. Il y a longtemps, longtemps, mais je sais pas, il y a eu déjà un découpage à l'époque.
Oui.
Mais puis, bon, si ce regroupement se fait, bon, c'est pour regrouper tout. Les sports, enfin, de tous,
oui,
les chasseurs, les pêcheurs.
La Picardie est riche en terrain. Hein. Ouais, ils ont des très beaux terrains.
téléphone, nous avons Maxence Rigaud, Guy.
Oui, Maxence, bonjour.
Ouais, bonjour.
Oui, alors, on t'a vu la semaine dernière en vidéo lors de la remise des prix des Flandres. Je voudrais te dire que tout le monde t'a applaudi suite à cet accident malheureux que tu as eu, ouais, à Longplage, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Il y a eu un mois la vendredi. C'est les risques du métier. Hein.
Oui, et alors actuellement, est-ce qu'il y a une progression ? Parce que bon, tu fais quand même pas mal de...
Bonjour hein, Maxence, c'est Patrick là.
Patrick de Pécancourt.
Pécancourt. Bon, c'est vrai que tu finis deux en
championnat et mix
championnat de ligue. Bon, voilà quoi.
Et mix 2, hein. Oui.
Ouais. Alors, on va peut-être pas trop revenir sur les circonstances sur l'accident, mais en gros, c'est une mauvaise réception.
En gros, c'est. J'ai pris un appel. Le terrain venait d'être fait. J'ai pris l'appel. C'était un peu mou, c'était dans le sable. Et j'ai sauté un peu par, enfin j'ai atterri un peu par avant, du coup j'ai guidonné, puis je suis passé devant la moto dans le dos et
voilà.
Après j'étais par terre quoi, et là quand tu sens que tu sens plus les jambes et tout, ben ça te fait bizarre quoi.
Oui, tout à fait. En tout cas, bon, t'as toute l'équipe ici de Kikinkou, ainsi que le motoclub de Pécancourt. On est, je te l'avais déjà dit au téléphone il n'y a pas longtemps, hein, mais t'as un courage. Bon, la façon dont tu parles un petit peu, tu n'hésites pas à reparler de ton accident. Bon, avec les circonstances que l'on connaît et que tu connais toi bien sûr, en espérant que ça puisse, enfin si ça s'arrange pas complètement, mais au moins que tu sois pas trop qu'il y ait trop de séquelles, bon, pour ton existence, pour ta vie quoi, hein.
Ouais, bon après c'est moi, j'ai la moelle fort abîmée, mais elle est pas sectionnée, donc tant que c'est
voilà,
pas sectionné,
voilà,
c'est de l'espoir, même si pour l'instant je sens,
voilà,
je sens
c'est
plus,
ça,
je ouais, sens plus les jambes et tout, enfin je perdrai jamais espoir quoi, ça c'est sûr et certain.
Ouais. Tu vas te battre encore. Comme en motocross, tu vas te battre. Hein.
Alors Maxence, on a pu lire que tu étais au régime donc sans sel et sans sucre.
Mais ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai des. Donc avec le choc, toutes les fractures que j'ai eues, j'ai des hématomes tout le long de la moelle épinière qui compressent la moelle épinière en plus.
Ah, ouais.
Et du coup, je dois prendre. J'ai des médicaments à base de cortisone. Et du coup, je peux pas prendre de sel et de sucre parce que ça me fait gonfler en fait.
Alors pas de glace en ce moment alors, pas de glace.
Ouais.
Non, rien du tout. Hein. Rien du tout, même fromage sans sel.
Ça c'est dommage alors.
Ah, c'est horrible.
Ouais, en tout cas, leçon de courage. Hein. Moi, je tire mon chapeau parce que voilà, ça va pas être évident tout ça quoi. Hein.
Moi, bon, c'est pas évident, mais bon, quand t'es dans ma situation, t'essayes de mettre toutes les chances
ouais,
de ton côté.
Ouais, hein. Ouais, c'est
pas,
ça.
C'est pas ouais, un, c'est, deux ou trois
c'est,
mois.
C'est sûr, qu'il faut bon, garder le moral, hein, et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Hein, voilà.
Ouais,
alors, moi, Maxence, là, c'est. Je te parle au nom du motoclub. On a eu une réunion vendredi, bien sûr, on a parlé un peu de toi. Et le motoclub t'invite lors du salon, du 36e salon de la moto à Pécancourt, hein, qui se déroule le 14 et 15 mars. Hein, tu choisiras la date, t'es invité à passer une journée auprès de nous, quoi. Hein. Je suppose que tu te feras accompagner. Moi, j'aurai l'occasion de te rappeler pour te donner un peu les détails. Mais sache que là, tu vas te régaler parce qu'on a un spectacle de FMX. Et je peux même t'annoncer qu'on aura la présence de Tom Paget, son frère, Madison. Enfin, un plateau, on va dire mondial, hein, vraiment de... Tu les connais sûrement encore mieux que moi, quoi, toi.
C'est top. Quoi, bah, je vais essayer de venir. Normalement, ouais, j'aurai des permissions parce que là, je suis au centre pour s'il ne se passe rien pendant minimum 6 mois et si j'ai d'amélioration pendant 1 ou 2 ans. Donc,
d'accord.
Mais après, j'aurai des permissions.
Ouais.
Donc ouais, ça me ferait plaisir de venir.
Oui, parce que bon, nous, plaisir de t'accueillir. Et puis en plus, je te dis, tu pourras discuter, on te réservera un moment, là, discussion avec Tom et son frère présent, qui lui a été gravement accidenté aussi. Hein, et,
ouais, je sais, j'ai un peu côtoyé Tom à l'une plage, je connais un peu.
Ah bon, d'accord, ok.
Ça me fera plaisir de le revoir.
Alors en plus de l'invitation du motoclub des Pécancourt, nous, Assos Kikaku, on te propose de te mettre dans notre calendrier qui va être tiré à 35 000 exemplaires. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah ouais.
Mais bon.
Bah, il pense que c'est bien.
Sauf que bon, il nous faudrait par exemple, tu sais, une photo de course de toi. Comment on pourrait la procurer auprès de tes parents, non?
Ouais, ben moi j'ai le PC ici, hein, je peux vous envoyer si vous me filerez le mail.
Sur, le site, donc sur notre site, en fait, tu vas trouver notre site et tu peux mettre la photo dessus.
Ah, okay, d'accord.
Bah, je ferai ça. Une photo quand je roule et juste une photo quand je roule. Hein.
Oui, voilà. Hein. Et ben,
okay, pas de problème.
Tu peux donner le.
Mais sans casque. Hein.
On te voit quand même. On fera tout à l'heure au téléphone. Hein.
Ah, ok. Ouais, sans casque, par contre, ça va être plus compliqué à trouver, mais je vais essayer de trouver.
Ouais.
D'accord, on te remercie.
Voilà.
Allez, salut Maxence.
Maxence, ouais, merci, hein, bon courage et à très bientôt, je te rappellerai. Hein.
Ok, pas de problème.
Voilà, journée, salut.
téléphone, nous avons Milko Petitsec, Guy. Alors lui qui s'est blessé au Supercross de Lille.
En effet, bonjour Milko.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
On vient juste d'avoir Maxence Ripoll là, blessé, bien sûr, sur son lit d'hôpital au téléphone. Et bon, dimanche dernier, on t'a vu là, à la remise des prix des Flandres. Et comment va cette fracture? Est-ce que, parce que tu m'avais dit que tu allais prendre peut-être de l'entraînement en courant janvier.
Ouais, bah ça se passe vraiment bien. J'ai eu la chance de vraiment bien opérer au CHR de Lille.
D'accord.
Donc, aucune complication, donc ça c'était déjà le plus important. Maintenant, bah là, je vais sûrement attaquer la rééducation fin de semaine prochaine. Donc ça, c'est déjà un bon point, parce que moi, je pourrais commencer à bouger un peu et après... on rattaquera la moto dès que possible.
Et est-ce que tu... par exemple, l'enduropale, est-ce que tu penses être au départ ou c'est encore trop près?
Je sais qu'il y a une chance que je peux être prêt pour le faire. Après, est-ce que ça vaut le coup? C'est
ce
que je me pose. Donc, je prendrai vraiment ma décision vers la mi-janvier quand je serai vraiment dans la pleine rééducation.
D'accord.
Et je prendrai ça vraiment janvier que ça va se décider.
Ton accident au Supercross de Lille, tu l'as analysé? Est-ce que tu es arrivé trop vite sur les whoops ou bien pas assez vite? Parce que à la vidéo on voit mal, on voit ça de face. Comment tu l'as analysé cette chute?
J'ai bien analysé, mais à vrai dire je comprends pas trop ce qui s'est passé, parce que j'ai été éjecté direct en fait, donc j'ai regardé sur plusieurs angles des vidéos, mais je comprends pas trop ce qui m'est arrivé, mais donc après c'est la course et la terre était molle, j'ai atterri que sur une seule jambe, donc on va dire j'ai eu de la chance qu'il m'est arrivé qu'une fracture ouverte du tibia péroné, et surtout de pas m'être fait sauter après sur un autre pilote, donc on va dire dans mon malheur je m'en sors bien.
Parce que c'est vrai que ça arrivait quand même assez vite derrière toi. Je vais te reparler aussi de ta saison en MX1. Tu as terminé 19e, c'est ça?
Ouais, j'ai pas fait 8 épreuves parce que c'était vraiment un budget un peu phénoménal d'aller au Qatar, Thaïlande, etc. Et cette année, je fais l'intégralité du championnat, donc l'objectif c'est d'essayer de rentrer entre la 10e et 12e place au classement.
Parce que depuis 2012 et 2013-2014, tu étais à peu près abonné à la 20e place, hein. Mais juste devant les Toumons, je vois comment que c'est le Russe ou bien le Letton, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais maintenant, tu peux encore progresser en MX1.
Parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je le fais. Pas en intégralité, je sélectionne les courses qui sont le plus près pour moi, qui sont surtout limitrophes. Et c'est pas évident déjà de prendre un championnat quand il est commencé, parce que tous les pilotes se sont déjà un peu évalués. Donc je le prenais souvent en cours de route et je faisais que la moitié. Donc c'est pour ça aussi que ça explique la 20e place. Là cette année j'ai la chance de pouvoir le faire en intégralité, donc je suis pressé de voir ce que ça va donner.
Et tu fais la totalité de la saison 2015, mais dans un team français, c'est ça?
Ouais, dans un team français. En fait, je me suis associé avec Tip Top Racing Team, c'est une équipe française. Et en fait, c'est vraiment ce que je voulais, parce qu'en fait, je voulais moi créer ma propre équipe. Et en fait, c'était un peu compliqué de le faire seul. Donc là, de le faire avec une personne vraiment compétente, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et au moins, je peux vraiment choisir le programme que je vais faire, les pièces sur ma moto. Donc, je suis vraiment content d'être arrivé à faire ça. Et je pense que ça va, pour la suite, ça va être ce qui m'arrive de mieux.
D'accord. Avec ta place de vice-champion du monde en MX3 en 2011, est-ce que ça t'a ouvert des portes en MX1 ensuite?
Ça m'a ouvert des portes, mais le problème, c'est que le MX1, c'est vraiment un niveau de budget au-dessus et un niveau sur la moto au-dessus aussi. Donc ça m'a ouvert les portes, parce que ça fait quand même 3 ans que je le fais, même si je le fais qu'à moitié. Donc c'est déjà quand même pas mal d'avoir cette chance. Là maintenant, on a réussi avec l'aide de Yamaha France et beaucoup de sponsors à passer au niveau au-dessus. Donc, moi, c'est assez beau parce que là, je suis un des seuls. On est le seul team français à faire le championnat complet. Donc, je trouve que c'est assez beau.
Alors, donc, tu veux rentrer dans les 15, dans les 15 premiers, là, pour l'année prochaine, au moins.
Ouais, ouais, bah, entre le top, ça serait faire dans les 10 au championnat. Après, on va dire entre 10 et 12, ça serait pas mal. Et je pense que j'ai vraiment moyen d'y être.
Je vais te poser une question aussi concernant le champion du monde 2015. Károly ou Villo Poto?
Bah, Villo, ça va être un sacré adversaire, mais je pense que Károly, ça va quand même ça reste l'homme à battre. Et, il n'est pas 10 fois, je crois, c'est 8 ou 7.
Ouais, ouais, voilà.
Donc... Ouais, il n'est pas champion du monde d'affilée comme ça pour rien. Donc moi, je mise sur Károly.
Parce que Villo Poto, bon, il est plus spécialisé en cross indoor, hein, par exemple. Hein.
Bah ouais, ouais, c'est un grand champion du motocross US, mais c'est complètement différent ici en Europe, sur tous les terrains qui sont différents. Mais après, un pilote de ce niveau-là, ça s'adapte très vite. Donc, Károly aura quand même beaucoup de mal à s'en défaire.
Ok. Bon, bah écoute, Milko, on te souhaite une excellente saison 2015. Et
moi, j'avais une question à poser à Milko.
Une minute, une question. Et tu sais que pour nous, tu es le vainqueur moral de l'Enduropal 2013. Hein.
Oui, alors là, on va pas rentrer dans le truc encore. Hein. Mais moi, j'avais une question. Est-ce que pas trop déçu d'avoir participé justement au Supercross de Lille, avec les chances de l'Enduropal qui est dans 2 mois là?
Bah si, c'est sûr que je suis juste déçu de louper le touquet. Après, si je roule pas, après c'est pas encore fait. Le problème, c'est que je voulais vraiment faire Bercy depuis longtemps. Et je regrette en aucun cas de l'avoir fait. Ils m'ont déjà contacté pour l'année prochaine. Donc moi, je suis presque motivé pour le refaire, mais après encore mieux d'entraîner. Donc c'est une question que je me pose déjà. Et je vais répondre, je prendrai ma décision pendant la saison, mais il y a de grandes chances que je sois à Lille l'année prochaine.
Ok, bah, on sera là pour t'encourager, Milko.
Bon, parfait. Merci beaucoup.
On te remercie.
Au revoir.
Allez,
au revoir. Voilà, on va quitter un peu l'info tout terrain, bien que, finalement, c'est peut-être aussi du tout terrain. On va parler Kioni, Krio, Kimona.
Bon, on va traduire. Parce qu'il il a un accent terrible, alors ça veut dire hiver, neige et froid.
Neige et froid,
mais,
voilà.
25 ans de vacances en Grèce. Voilà, et non, mais.
Voilà. Bon, alors Jean-Yves, voilà. Nous avons la chance de retrouver Jean-Yves qu'on a eu au téléphone dimanche dernier. On sentait bien que dimanche dernier, il y avait des problèmes. Hein. T'étais sur le bord de la route, t'avais cassé la remorque, t'as trouvé un poste à soudure. Ça, c'est facile. Sauf que t'as eu l'idée de faire un bras remorque en inox. Et pour trouver de la baguette inox, ça, c'est un problème.
C'est beaucoup
plus
dur. Donc,
t'as mis une journée pour trouver une baguette inox, ressouder...
Des baguettes inox.
Des baguettes inox, pour ressouder ce bras de remorque qui a cassé. Comment
c'était que ça a cassé? Ça a cassé la remorque qui avait 35 000 bornes. J'ai fait le Cap Nord, j'ai fait des tas de choses avec. Mais là, par contre, comme on n'était pas en sidecar, on était parti à 3, c'était elle qui était principalement chargée.
Un surcharge, la remorque.
Surchargée, oui. Et puis, elle avait tendance à racler du cul sous la charge. Et à force de racler du cul, les vibrations, ça a cassé le bras. Donc, au milieu de nulle part, dans un petit village du Berry de 200 habitants.
En plus, dans le Berry, ah là là. Trouver une baguette inox ou des baguettes.
Des baguettes inox, oui, parce qu'une seule, ça ne suffisait pas. Et donc, on avait retenu dans un relais motard, on a abandonné la remorque là, à son triste sort sur le bord de la route, et on est parti dans le relais, en se disant, bon ben, les problèmes arriveront demain matin, pour l'instant, on les laisse de côté. Mais par contre, le relais motard est détenu par un couple vachement sympa qui nous a dit que, de toute façon, dans leur village, s'il n'y avait pas de solidarité, on ne pouvait pas s'en sortir. Et donc, ils ont fait jouer leur relation. Ils ont trouvé un gars qui avait des baguettes inox. C'était déjà très bien. Puis un autre gars qui avait le poste à souder. Et en mariant les deux, on est retourné chercher, démonter le bras de la remorque, le ramener au village, le souder, pour le remonter, puis repartir. Ça nous a fait perdre quasiment trois quarts d'une journée.
Bon, donc, c'est ça l'aventure, Yanis. Hein. Et Patrick, tu vois, l'hivernal aussi. Il n'y a pas que le motocross aussi. Il y a aussi les balades en moto. L'aventure.
Je suis quand même un peu étonné. Il n'y a pas de boulanger par là. Pour des baguettes.
Oui, mais alors, c'est assez mou, les baguettes.
C'est, ça, Jean-Yves, c'était pour le départ. C'était sur la route.
C'était sur la route du départ.
Du départ. Et... Donc, il faut rappeler que tu partais à cette fameuse hivernale, l'authentique, hein, du motoclub des mille vaches.
Du motoclub des mille vaches.
Ah ouais, justement,
le MCP, les mille vaches.
MCP, c'est un pirate, vaches. En plus, c'est un motoclub pirate.
Oui, c'est dans la tradition. Ils ont voulu faire revivre le fondateur de l'épreuve qui était. Michel Perdry. Michel, oui. Et donc, il s'est tué en moto un peu de temps après, mais enfin bref. Donc, on était partis à trois. Bon, moi qui ai une certaine expérience, un autre gars de Valenciennes qui a 6 ans de moto derrière lui. Mais par contre, une fille de Villeneuve-d'Ascq, qui a le permis que depuis mars 2014.
Ah ouais. Ouh là là.
Et c'est vraiment son baptême de la glace, pas du feu. Et là, je lui retire mon chapeau parce que franchement, elle a quand même très très bien comporté.
Alors, c'est assez curieux le principe de cette hivernale. Donc, on ne sait pas où se trouve le terrain.
Voilà, exactement.
Là, tu ne savais pas, en partant d'ici de Villeneuve-d'Ascq, tu ne savais pas où se trouvait le terrain. Tu arrives dans le village, il y a une espèce
une
de
dégénérescence, checkpoint. Justement, une dégénérescence des hivernales, c'est que beaucoup mettent la moto ou l'attelage sur une remorque.
Ah oui, ça, faut pas faire ça, non.
Ils s'arrêtent à 20 bandes de là, ils descendent de la moto, ils font comme s'ils étaient venus de Pétaouchnok ou de Brest ou de Perlimpinpin. Donc, ça pour éviter ce genre de choses, pour écrémer un peu les usurpateurs.
Tu vois, Patrick, on écrème aussi, tu vois.
Donc, y a un point de ralliement dans un petit village paumé. De toute façon, ils sont tous paumés là-bas, c'est le Puy-de-Dôme. Et seulement sur place, à l'inscription, enfin, on a envoyé le chèque et tout, ben là, on est inscrit, mais on ne sait que, quand on arrive sur place, l'endroit du bivouac qui se situe 30 ou 40 bornes plus loin. sur les hauts plateaux, avec un vent à décorner un dinosaure.
Alors pas de neige cette année, mais un espèce de...
Pas de neige, mais énormément de grésil. J'ai dû me réveiller plusieurs fois la nuit parce que j'avais le sommet de la tente qui me touchait, surchargé de glace. Donc il fallait
donc, et la température, tu l'as enregistrée,
moins 10.
Moins 10, oh, bah, c'est bon, hein, c'est magnifique, c'est une bonne hivernale.
Moins 10, c'est quand même une belle hivernale.
C'est une belle hivernale, mais c'est le pire. Enfin, moi, ce que j'ai vu le pire, c'était vraiment ce vent. Parce que le gars de Valenciennes avait bien prévu, il avait pris des bâches et autres. Il avait même emmené un poêle sur sa moto en solo.
Ah oui, carrément.
Ah bah, il faut de l'équipement là-bas pour résister. Et donc, son poêle avec cheminée qui passait à travers les bâches. Et puis, il y avait tellement un vent à décorner, je vous dis, un tricératops, qu'il a fallu démonter. Et, puis, donc,
et vous avez mangé cru, alors ?
Vous avez mangé cru ?
Non, pas mangé cru. On a réussi à faire chauffer quand même les gamelles sur des braises, mais ça a été très dur de faire démarrer le feu.
Il faut dire aux éditeurs que tu es parti avec une Triumph Rocket 3. Pour les gens qui savent ce que c'est qu'une Rocket 3, c'est pas le petit morceau.
Le pilote est pas petit quand même.
Ouais, non, mais j'ai envie des costauds. Mais bon, quand même, attends, Rocket 3 sous la neige, sur le verglas. Et donc, tu as équipé la machine de ski.
J'ai équipé de ski, mais finalement, les skis, c'est un luxe. Le truc le plus important, c'est les chaînes. Parce que bon, il y a le coup des colliers Colson avec des rivets Pop Inox.
Ou le câble.
Ou des câbles.
Pouvoir faire adhérer la roue arrière.
Ça permet de, et la roue avant surtout.
Et la roue avant aussi,
parce qu'il faut quand même conserver la direction. Donc là, j'avais équipé avec des chaînes et manque de chance. Il y a eu 700, 800 mètres de parcours vraiment verglacé où c'était utile. Donc c'était tranquille.
Et tes chaînes, tu les as trouvées, c'est de la fabrication artisanale aussi ?
Alors, mes chaînes, à l'arrière, je suis passé au dark side. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le dark side, c'est rouler avec un pneu de voiture à l'arrière.
D'accord.
Ça coûte 3 fois moins cher, ça dure 3 fois plus longtemps. Vous gagnez un facteur 10 sur votre longévité de roue arrière. J'avais la chaîne à l'arrière, il n'y avait pas de problème. On achète de l'adaptable chez n'importe quel marchand de voiture. Et par contre, l'avant, c'est pas les mêmes dimensions, donc il a fallu que je modifie des chaînes du commerce pour les mettre à la longueur de mon pneu.
Bon, on va terminer. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'hivernal aussi.
L'hivernal des mille vaches.
Sur le plateau des mille vaches, mais organisé par le motoclub de Meymac.
Qui est beaucoup plus bas en altitude, qui est censé être moins difficile en condition.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'on l'a vécu quand même.
En 2012, il y avait beaucoup de neige.
On se donnera rendez-vous l'année prochaine là-bas, dans le Puy-de-Dôme. Et Patrick, qui est amateur de l'hivernal.
Oui, s'il y a l'hélico du SAMU dessus, pas de problème.
On prendra comme une bonne bouteille de vodka pour ça réchauffe, Guy. La vodka. Très bien. Merci. Jean-Yves, de nous avoir commenté un peu cette balade. En fait, tu nous as donné envie d'y aller.
Bah oui, 1540 bornes sur le week-end.
Ah oui, quand même, sur le week-end, c'est pas mal. Tout bien.
Never.
Voilà, l'info majeure aujourd'hui quand même de cette émission, bien qu'on a eu beaucoup quand même, mais on va la répéter toutes les semaines.
Voilà,
c'est l'histoire du complexe.
Du complexe de Lausanne, où la Fédération française de motocyclistes vient de rendre son rapport et ses préconisations. Donc la FFM oblige à réaliser un certain nombre de travaux, et c'est seulement une fois que ces travaux vont être réalisés que le dossier d'homologation pourra être déposé en préfecture. Donc le coût de ces travaux est d'environ 270 000 euros. Et donc l'association ARCM a débloqué 100 000 euros de ses propres fonds, et donc il reste 170 000 euros à trouver. Donc en sollicitant les pouvoirs publics, les sponsors, la FFM et vous les motards, en fait, hein, vous avez été nombreux justement à vous positionner par rapport à ce circuit. Donc pour vraiment adhérer et faire un don, eh bien je vous invite à télécharger le formulaire de don sur pistelezen.free.fr. Là, vous allez tomber sur la news. Vous lisez, si vous avez envie, toute la news qui va vous rappeler justement le problème de ce circuit. Et au bas de cette lettre, vous allez pouvoir cliquer sur un lien qui va vous emmener sur un formulaire à remplir. Voilà.
Bon, je rappelle aussi que le complexe, c'est pas que la piste routière, hein, c'est aussi le motocross, Patrick. Donc, oui. Voilà, donc on cherche de l'argent. Enfin, nous, les motards, on va dire que c'est notre circuit. Il faut bien qu'on puisse arriver à faire ces travaux de façon à ce que le circuit puisse vivre, oui, hein, et perdurer. Donc, si chacun donne 10 euros sur les adhésions...
On devrait atteindre à peu près 100 000 euros, donc pratiquement ce qu'on a besoin pour...
Pégancourt pourra donner un gros chèque.
Voilà, on va demander.
Pas 10 euros.
Voilà. Bon, oui, on termine cette émission avec ce que tu préfères dans le tout terrain, en fait.
La glace.
C'est les courses sur glace. Voilà. Bah, tu vas me dire, c'est d'époque. Hein,
parce qu'on parlait.
Surtout aujourd'hui.
On parlait de glace, justement, aux mille vaches. C'est les championnats du monde qui vont commencer les courses sur glace. L'année dernière, faute sur une piste de glace, la glace a fondu. Donc, il n'y a pas eu de qualification. Donc, les pilotes ont été choisis par la tête de pipe, mais presque, par la FIM. Alors, cette année, il y aura une qualification. C'est en Suède, c'est au nord de Stockholm, le 10 janvier. Le 17 janvier, une semaine après, c'est l'Autriche, avec une qualification et un challenge. Et tout de suite après, tout le monde, les qualifiés, partent en Russie. Et cette année, un autre pays, ils vont partir dans le Kazakhstan. Parce que là, bon, il y a de la glace.
On est sûr d'avoir la neige et du froid.
En effet. Et il y aura trois épreuves donc en Russie et une au Kazakhstan. Et la plus proche, ça sera Assen. Mais problème à Assen, parce que l'année prochaine, peut-être plus de courses. Étant donné que c'est un complexe qui regroupe pistes de glace, patinoire, quoi, je veux dire, un hôtel et puis une piscine. Mais problème, c'est-à-dire que ils doivent changer toute l'infrastructure de la patinoire. Qui revient à 10 millions d'euros.
Ils vont devoir faire aussi un...
Donc, on va lancer aussi...
Faire un don.
On va lancer aussi...
Oui, recherche de dons.
On est à Pécancourt.
On va demander, parce que bon... Patrick, est-ce que tu as vu les photos déjà de Guy sur notre site, quincier.free, les photos d'As Rice?
Non.
T'as pas vu, c'est impressionnant. Écoute, franchement, l'angle que ces pilotes prennent, c'est vraiment avec.
Ça fait maintenant quelques années aussi. Guy veut m'emmener à tout prix sur un. Oui. Et ça tombe très
alors,
mal.
Et alors, c'est dommage parce que la scène, c'est la seule, c'est la course la plus près de
Sicile. La plus proche.
Et
souvent, Pécancourt tombait avec les courses sur glace, mais cette année.
Oui, mais ils ont changé la course sur glace parce qu'ils savent toujours que Pécancourt.
Ouais, donc, voilà. Qui vont donner de l'argent.
Oui.
Et un petit mot sur notre seul pilote français, Claude Guéden, qui...
Ah oui, il est encore là, lui.
Ouais. Et lui,
Claude Guéden.
Il a préparé sa moto en Tchécoslovaquie. Ouais. Elle est sur le site, je vais le mettre sur le forum. Par contre, il n'a pas de pilote d'engagement pour les championnats du monde. Ils l'ont oublié.
Ah, ils l'ont oublié.
Il n'est pas content.
On va demander à Pécancourt, ils vont une licence gratos.
Pécancourt.
Très bien. Voilà, bon, générique... me parvient aux oreilles. Merci Yanis pour cette.
Merci Jean-Michel.
On va dire au revoir en grec.
T'as un bon accent.
Hein,
ouais, bon, Yanis Michalé.
D'accord. Bon, Guy, ben, on se retrouve l'année prochaine en fait.
Ah ouais, l'année prochaine. Ouais.
Pareil aussi, Jean-Yves, hein, l'année prochaine. Ben nous, pareil aussi, Patrick, l'année prochaine.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et non. Oui. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et puis des bonnes fêtes de nouvel an. Voilà.
Et plein de cadeaux.
Et plein de
d'heureux
cadeaux.
Et nombreux kilomètres.
Et dimanche prochain.
Une grosse
prochain,
moto sous le sapin.
Et dimanche prochain, on part en Thaïlande en moto. Ouais, yeah. Pour fêter Noël.
Avec un poêle.
Voilà. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Bon
au
dimanche.
Revoir. Au revoir. Au revoir.